Il a deux références. Il a une référence au monde indien, mais il a aussi une référence au président Cáceres qui occupait le pouvoir à la fin du 19e siècle et qui a été un héros de la lutte contre le Chili, qui maintenant est une puissance importante dans la région. Et derrière tout ça, je pense qu'il faut aussi se rappeler de ce qui s'est passé en Bolivie, notamment avec toute l'affaire sur le gaz. Il y a beaucoup de revendications nationalistes maintenant qui tournent aussi autour du contrôle des investissements dans le secteur de l'énergie.
Cette prise d'otage a été présentée comme un événement isolé, mais n'est-elle pas le signe d'une exaspération plus importante ?
Écoutez, oui, c'est pas un mouvement populaire, si vous voulez, mais il est clair que c'est un signe fort et que la presse en parle beaucoup, les gens en parlent beaucoup, et que c'est aussi un symptôme d'un certain, pas désespoir, mais de finalement d'une certaine déception vis-à-vis du gouvernement du président Toledo. Notamment parce que Toledo avait mis pas mal en avant ses origines en partie indiennes, le fait que ce soit un fils du peuple qui soit arrivé au pouvoir, et comme dans d'autres pays d'Amérique latine, les gens parmi les plus pauvres ne voient pas arriver les progrès et l'amélioration de leur vie quotidienne. Donc il y a forcément des phénomènes d'exaspération. D'autant que dans le même temps, ils voient qu'il y a un certain développement des exportations, par exemple, de gaz, qu'il y a de l'argent qui peut rentrer par ce biais-là, ils se posent un peu des questions pour savoir où est-ce que tout ça va.
Vous parlez de l'exploitation du gaz, quels sont les investisseurs étrangers présents au Pérou ?
Il y a un certain nombre de ressources, notamment en termes de gaz, qui sont exploitées par des compagnies qui sont à la fois américaines et pour certaines coréennes. Et on l'a vu dans le conflit en Bolivie, une des revendications du mouvement était qu'il n'y ait pas de gaz qui parte vers le Chili, qui est l'ennemi historique. Et on se retrouve dans une configuration qui est un peu identique. Le Chili, qui est la puissance un peu économique montante, qui a des gros besoins énergétiques, est montré du doigt. Mais une des revendications, justement, du mouvement est un meilleur contrôle des investissements étrangers, surtout qu'il y a des gros contrats qui ont été signés.
Le mouvement ethno-cacerista appelle à un retour à la pureté inca. Qu'est-ce que cela signifie pour les Indiens du Pérou ?
Je pense qu'il faut plutôt éventuellement mettre ça dans un mouvement plus général dans la région, et particulièrement dans la région andine, où effectivement, populations indiennes continuent à avoir un certain poids, pour certaines redécouvrent leurs racines et se rattachent aussi à leurs racines. Que ce soit en Équateur ou en Bolivie, ils jouent un rôle politique important. Donc le rappel de ces revendications, ils se rappellent à l'histoire, n'est pas vraiment surprenant, d'autant plus que c'est un mouvement nationaliste. On appelait à l'héritage fort, le passé glorieux qui était l'Empire à l'époque. Ils sont marginalisés et potentiellement ils peuvent adhérer à ce type de mouvement. Mais là, ce qu'il faut voir, c'est que ce sont quand même essentiellement des militaires à la retraite qui sont à l'origine du mouvement.
Et justement, la présence de militaires à la tête de ce mouvement n'est-elle pas source d'inquiétude ?
Écoutez, oui, il ne faut pas oublier que en Équateur, le président est un ancien militaire qui avait participé à un coup d'État. Il faut aussi rappeler qu'au Venezuela, l'actuel président de la République est un ancien militaire qui a aussi participé à un coup d'État avant d'arriver légalement au pouvoir. Donc il y a toujours eu dans la région, si vous voulez, une tradition de militaires populistes qui ont pris les armes pour défendre le peuple. Chavez a des références bolivariennes et là, ces militaires, eux, ont des références indiennes.